Voilà, donc c'est le moment est venu pour le débat. Donc, y a-t-il des questions?
Oui, ma question serait à propos de la rivière Lorraine et plus exactement, je suis là. Voilà. Et plus exactement, vos trois scénarios terminaux. Pour lequel je vais vous demander justement quel vous paraît le plus vraisemblable. Je dirais d'ailleurs que le premier et le second ont des relations assez étroites, puisqu'il est question de tourisme dans le premier et dans le second. Bon, et j'aimerais donc vous dire quelle est votre opinion personnelle sur cette évolution vraisemblable.
Je suis contente que vous reveniez. Ça marche, là ? Je suis contente que vous reveniez sur le sujet parce que, bon, c'était 20 minutes, c'est vraiment court, quoi. Hein. C'est vrai que les conséquences de l'exploitation minière ont été un peu zappées. Alors, c'est vrai, ce scénario vert, hein, je veux dire, c'est celui qui correspond, qui recouvre le mieux, les enjeux de sécurisation des sites. Et c'est pas pour rien que c'est en général les carrières, en Lorraine en tout cas, c'est les carrières qui ont été l'objet des traitements des espaces dégradés en priorité, parce que d'abord, c'est un vrai danger. C'est 100 mètres de front de carrière à Merlebach, par exemple. Hein. Mais c'est aussi qu'à un moment donné, je veux dire, c'est aussi ce qu'il y a de plus simple à faire. Les autres projets de réindustrialisation, d'activité, de logement, créent des problématiques beaucoup plus importantes et parfois irréalisables. Hein. Installer un logement au fond d'une carrière alors que la nappe phréatique est à niveau du sol, je veux dire, ça paraît complètement réalisable. Hein. Alors dans cette situation-là, c'est vrai que le retour à la nature satisfait les écologistes, satisfait les Sarrois qui aiment faire la promenade en vélo, j'allais dire satisfait, mais c'est le moins coûteux aussi en termes de d'engagement, et c'est aussi le plus simple. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer le scénario bleu avec de l'habitat, enfin quelque chose de plus panaché, mais avec une grande place à la nature, ou le scénario industrie, artisanat, logement, me paraît dans ce secteur-là complètement réalisable. Mais comme j'ai quand même eu le temps de le dire, c'est quand même à un moment donné les trois communes qui n'ont pas du tout réussi à se mettre d'accord et qui avaient besoin les uns de logement, l'autre de réindustrialisation, même à petite échelle, quoi. Le scénario 1, finalement, c'est le plus réaliste. Voilà. Et c'est celui qui est appliqué dans tous les endroits similaires. C'est vraiment une mise en sécurité. Hein. On crée des butées au bas de la falaise pour que les blocs qui vont continuer de se détacher ne blessent personne. On va clôturer le tout. On va ouvrir un petit peu sur la vallée pour que ça fasse un point de vue. Mais bon, ça a quand même mis 4 ans pour le traitement de la carrière de Merlebach, qui fait quand même 4 km sur 850 mètres de large. Quoi, hein. Voilà. Le premier.
D'autres questions? Oui.
Oui, on me demande de me présenter. Alors, Gérard Sustrac, Union française des géologues. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser trois questions en même temps, mais enfin, je vais le faire. Elles peuvent être courtes. J'en ai deux pour Francis. Première question, est-ce que la méthode d'exploitation a une influence sur l'affaissement en surface, parce qu'au fil du temps, ce ne sont pas les mêmes méthodes qui ont été employées, et également, ce ne sont pas les mêmes méthodes qui ont été employées en fonction de la disposition géométrique des terrains. Deuxième question, est-ce que tu peux dire un mot sur le problème du gaz, puisque tu ne l'as pas abordé du tout dans ta présentation. Donc, sondage de décompression d'une part, et pompage de gaz pour utilisation économique dans le réseau GDF. Et puis j'ai une question pour Monsieur Labouda. Si j'ai bien compris son exposé, la présentation donne une image extrêmement idyllique de tout ce qui s'est passé depuis des siècles. Et j'ai quand même beaucoup de peine à croire qu'avec les techniques minières successives, on n'a pas entraîné des pollutions relativement considérables, que ce soit dans les déblais, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans l'atteinte au paysage, déforestation et autres. Donc, qu'est-ce que ce classement UNESCO implique comme travail pour remédier à ces impacts du passé? Merci.
La réponse à la première question est très, très courte. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une méthode qui a essentiellement été utilisée, c'est celle pour laquelle je montrais le dessin, c'est l'exploitation totale. C'est pour ça qu'on a essentiellement des affaissements sur de grandes étendues et qui passent de façon tout à fait continue de la zone la plus déprimée à la zone pas du tout affaissée. C'est uniquement localement qu'il y a eu des exploitations partielles et parfois d'ailleurs par erreur. Donc c'est tout à fait marginal. La deuxième question sur le gaz, pour faire très court, je dirais que le risque gaz est le risque que Charbonnage de France a pris le plus de très loin, le plus sérieusement. Et quand on a eu l'occasion de travailler sur d'autres bassins européens, on a constaté que ces Charbonnage de France était en avance sur la préhension de ce risque-là. Mais il faut dire que la caractéristique essentielle du bassin du Nord-Pas-de-Calais, vu sa taille, c'est que, comme il est entièrement souterrain, s'est développé dessus, indépendamment des stratégies des exploitants, s'est développé dessus une conurbation qui crée une situation de risque effectivement très grande. Et donc, quel est le risque pour le gaz? C'est tout simplement que, comme l'eau dans le sous-sol est en train de remonter, comme je vous l'ai dit, cette eau comprime évidemment la poche de gaz qui est au-dessus. Comme le gisement est entièrement souterrain, il y a, en théorie, aucune communication avec la surface. Mais la mise en compression fait que, quand même, il existe un certain nombre de conduits, ne serait-ce que les puits, ne serait-ce que, bon, les sondages, c'est un petit peu marginal, mais au moins tous les puits. Et quand je dis les puits, je ne parle pas uniquement des puits qui ont servi à l'exploitation, mais il faut évidemment inclure toutes les tentatives de puits qui ont été créées depuis le XVIIIe siècle, notamment ici dans cette partie orientale du bassin, et ces puits dont nous n'avons pas trace, dont nous ne savons pas quelle est la compacité du remplissage actuel, tous ces puits, certainement plusieurs milliers, constituent des conduits naturels permettant à un gaz sous pression de s'échapper vers la surface. Et donc Charbonnage de France a pris, dès les années 70, a pris la mesure de ce risque et a entamé une campagne de réalisation de sondages de décompression, a d'abord étudié évidemment la morphologie du toit de l'exploitation, du toit global, de l'enveloppe de l'exploitation, a déterminé les zones où il y avait des espèces de coupoles naturelles qui se produisaient, et a développé et a mis en place des sondages de décompression à l'apex de ces coupoles, de façon à ce que, lorsque l'eau remontera et terminera de remonter, les dernières bulles de gaz puissent s'échapper. Alors évidemment, le risque, c'est que ça ne s'échappe pas en ville, ou même pire, dans des bâtiments qui sont fermés. Or, il y a un certain nombre de puits connus qui, actuellement, se trouvent à l'intérieur de bâtiments. J'entre pas dans les détails. Plus les puits inconnus, pour lesquels, évidemment, par définition, nous ne savons rien. Il n'y a pas forcément d'installation de protection au-dessus. Et de ce fait-là, Charbonnage de France s'est engagé dans une procédure de pompage de ce gaz de mine, de façon à abaisser la pression interne du gaz bien en dessous de la pression atmosphérique, de façon à ce que le gaz n'ait pas une tendance naturelle à s'échapper par tous ces trous. Et ça a donné, je passe sur les essais qui ont été mis au point à Divion et à La Neuville, et ça a donné une exploitation pendant plusieurs années avec la société, réalisée par la société Métamine, à partir d'une fosse à Avion, qui permettait de faire baisser la pression atmosphérique à de l'ordre de 400 mm de mercure à l'endroit où c'était exploité, tiré. Et les effets de ce pompage se font sentir jusqu'à Valenciennes, étant donné que tout le bassin est connecté. Et donc, ce gaz, bah, évidemment, exploité, il fallait bien en faire quelque chose. Donc, un accord a été passé avec Gaz de France.
Je voudrais remercier notre collègue Labouda, car j'ai eu l'occasion d'aller sur ce site, qui a été donc classé patrimoine mondial, Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, c'est une ville très importante, dont la plupart des bâtiments datent de différentes époques, mais surtout du XVIIIe siècle, qui a été magnifiquement restaurée. Et à proximité de la ville, il y a donc un espace ouvert, un musée ouvert à l'extérieur, où il y a des traces très importantes de cette exploitation minière qui a duré pendant des siècles. Et c'était vraiment un exemple tout à fait extraordinaire de cette activité, de ces activités minières dans cette partie de l'Europe. Et c'est vrai que ce classement UNESCO est un tout et qu'actuellement la restauration est à peu près, enfin complètement terminée et c'est vraiment un site tout à fait exceptionnel que je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion d'aller dans ce joli pays, la Slovaquie.
Il y avait une question là. Virginie, oui, on a beaucoup de questions. Sur la gauche.
Ah. Hervé Barbery, Association Bassin Minier UNESCO et ancien des Houillères, Nord-Pas-de-Calais. Je voulais poser la question aux trois intervenants au point de vue qualité des eaux et en particulier les conséquences actuelles et futures sur la santé des habitants. En ce qui concerne M. Mélier, mais aussi Mme Bouchet, la toxicité des eaux n'est pas terminée parce que l'exploitation minière est finie aujourd'hui, mais l'industrialisation des régions Nord-Pas-de-Calais et Lorraine, et peut-être Tchèque, fait que la toxicité se poursuit. Une des conséquences humaines de l'industrialisation de nos régions fait que aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitants qui subissent, par exemple, les conséquences des eaux calcaires. Nous avons aussi des produits minéraux en flottation, aussi bien dans les eaux souterraines que dans les eaux presque en surface ou carrément en surface. Nous avons entendu récemment par les médias que dans nos régions, du Nord-Pas-de-Calais jusqu'en Alsace-Lorraine, on avait constaté par les milieux médicaux des pourcentages de maladies beaucoup plus importants que dans d'autres régions de France. Alors, est-ce que vous avez des éléments qui nous permettent aujourd'hui de prendre encore plus conscience des risques qui vont survenir dans les prochaines années? Merci.
Oui, c'est une question effectivement très complexe qui demanderait pas mal de temps pour répondre, parce que la question déjà par nature est complexe, mais il y a une telle sensibilité derrière la question, une telle sensibilité aux réponses, aux nuances des réponses, qu'il faut faire très très attention. Vous évoquez en terminant les échos médiatiques sur des études épidémiologiques. C'est typiquement le genre d'études auxquelles je ne ferai pas confiance aux médias. Je m'en excuse s'il y a des représentants de la presse ici. Parce que justement, ces analyses qui tentent de suggérer, je dis bien suggérer, pas démontrer, des relations de cause à effet sont excessivement dangereuses à manipuler. C'est tellement facile de faire un lien de cause à effet avant qu'il ne soit démontré qu'il ne faut vraiment pas s'engager là-dedans. Il faut éviter de s'engager là-dedans. Vous évoquez les eaux calcaires. Alors, sachez d'abord que toutes les eaux qui se trouvent dans le milieu naturel sont des eaux qui sont minéralisées. Elles sont naturellement minéralisées. Vous évoquez des eaux calcaires. Oui, la Lorraine en grande partie, le Nord-Pas-de-Calais et puis beaucoup d'autres régions ont leur réservoir souterrain qui se trouve dans des calcaires. Et nos eaux sont saturées en carbonate de calcium, bien sûr. Mais quand vous avez une recommandation médicale à prendre de l'Evian, du Vittel ou toute autre marque comme ça, on vous recommande aussi de prendre des eaux qui sont très carbonatées. Et la notion d'eau potable et d'eau minérale, je ne vais pas m'engager là-dedans, mais vous pourrez questionner Gérard Sustrac qui vous expliquera en détail. Cette notion d'eau minérale, les eaux minérales, en théorie, ne sont pas potables, elles sont des eaux médicales parce qu'elles sont très minéralisées. Bon, je ne vais pas plus loin dans ce détail-là. Pour en venir maintenant aux sources de pollution sur les anciens bassins miniers, là encore, il faut distinguer deux choses. Vous avez raison, et je vous suivrai, si on regarde les eaux de surface, les eaux qui sont à très faible profondeur, c'est-à-dire les eaux qui sont alimentées par un lessivage, par des précipitations, et qui lessivent les sols urbains et ruraux, qui ont supporté à la fois l'urbanisme et toutes les activités humaines, agricoles, rurales, agricoles, industrielles, etc. Évidemment, ces eaux-là peuvent, dépendant de l'endroit où elles circulent, peuvent être chargées, et ces eaux-là font l'objet de surveillance drastique de la part de l'Agence de l'eau et des services sanitaires. Il y a des contrôles réguliers et des circuits industriels, des cahiers des charges extrêmement importants pour que les eaux soient traitées avant d'être mises en circulation au public. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut plus aujourd'hui, enfin un particulier ne peut plus aujourd'hui prendre la liberté de faire un puits privé chez lui et de diffuser son eau comme ça. Pour les eaux souterraines maintenant, en ce qui concerne, je ne répondrai que pour le Nord-Pas-de-Calais, pour les eaux souterraines, je ne reviens pas sur l'eau de la craie qui est exploitée industriellement, mais les eaux qui actuellement remplissent les terrains houillés. Les terrains houillés ne sont pas naturellement aquifères, hormis les lentilles de grès qui se trouvent coincées, emballées dans les schistes. Et donc, ces eaux sont minéralisées, comme toutes les eaux souterraines. En plus, là maintenant, ces eaux sont bien sûr contaminées par les produits qui sont restés au fond de la mine. Et là encore, ce sont des processus naturels d'évolution physico-chimique des milieux. Et ces eaux, pour l'instant, ne rentrent pas du tout en communication avec les eaux qui sont utilisées pour l'alimentation, puisqu'il n'y a pas de prélèvement dans ces eaux qui sont actuellement dans les terrains houillés. La situation pourra intervenir, je n'emploie même pas le conditionnel, la situation pourra intervenir tout à fait dans le stade final du remplissage des terrains houillés, c'est-à-dire quelque part vers le 23e siècle, et à ce moment-là, tout dépendra de la façon dont le niveau hydrostatique des terrains houillés, de l'eau du houillé, viendra se placer par rapport au niveau hydrostatique de l'eau dans la craie. Un Charbonnage de France qui a eu à la fois beaucoup de chance et pas de chance, finalement dispose aujourd'hui de deux sites, chacun illustrant chacune des situations. Il y a un site tout à fait à l'est, où ce remplissage est totalement terminé dans une concession qui est restée isolée. Et là, l'eau de la craie reste au-dessus du niveau d'équilibre de l'eau dans le houillé. Dans une telle configuration, il n'y a pas de risque de contamination si on ne touche à rien, c'est-à-dire si on ne bouscule pas cet équilibre. Tout à fait à l'ouest, c'est ce qui se passe, même configuration, sauf que c'est l'inverse. L'eau de la craie est en dessous du niveau hydrostatique dans le houillé. Des analyses ont été faites à ce moment-là à la demande du comité scientifique de suivi des sorties de concessions minières. Et les résultats ont été tout à fait négligeables, c'est-à-dire à la limite de la capacité de mesure, de détection d'éléments polluants. les collègues géochimistes nous apprennent que ce sont les sulfates qui sont les éléments polluants les plus rapides à se déplacer. C'est donc les sulfates qu'il faut suivre en priorité. Et là encore, les sulfates, il faut déjà une bonne dose de sulfate pour que ça devienne toxique. À preuve, les sources thermales de Saint-Amand sont très sulfatées. Il suffit de regarder les étiquettes. Et donc, la situation de pollution avec toxicité, minéralisation, ça c'est commun, mais la situation de pollution avec toxicité, c'est une situation qui pourra se produire très tard dans le Nord-Pas-de-Calais et qui pourra se produire notamment alors dans des endroits particuliers pour lesquels je n'ai pas réussi à obtenir de surveillance spéciale. Ce sont les endroits où l'eau de la craie est prélevée pour l'alimentation, les champs captants dans la craie qui font des rabattements de la nappe de la craie et qui vont donc à ce moment-là localement amener ce niveau d'eau de la craie en dessous du niveau d'équilibre final de l'eau du Houillet. Et là, il y aura effectivement surveillance importante. Et donc ma question aujourd'hui, je comprends bien qu'au XXIe siècle, c'est difficile de prendre des mesures pour quelque chose qui se produira, une situation qui se produira au XXIVe siècle. Mais comment organiser la transmission de la mémoire et comment organiser une surveillance continue pour voir comment ce phénomène évolue ? En Lorraine et dans ce secteur-là que je connais un petit peu par ailleurs, la situation va se produire beaucoup plus rapidement, normalement, dans quelques dizaines d'années.
Mais vous compléterez peut-être mes données à moi qui sont lacunaires, parce que je ne peux pas faire le point sur la question des eaux souterraines. Par contre, pour ce qui concerne les eaux courantes, c'est vrai que depuis les années 80, il y a des analyses très fréquentes donc des eaux, hein, depuis les affluents jusqu'à la mer du Nord, et que la solution qui a été appliquée, c'est de fermer certains des sites les plus polluants. Ces premières analyses ont provoqué la fermeture de coqueries qui a précipité finalement, qui a anticipé la fermeture d'autres établissements. Par contre, pour ce qui concerne la mer elle-même, je crois que c'était au milieu des années 1990, au moment de cette étude-là, CDF Atochem, donc, qui exploitait une partie de cette plateforme chimique, je veux dire, venait d'obtenir un label parce qu'il avait donc rendu aux eaux de la mer et de la Rosselle une toxicité, j'allais dire négligeable, en tout cas admissible. Par contre, c'est vrai qu'il n'y avait plus de poissons, c'était une rivière morte, mais qui n'était plus considérée comme toxique. C'est vrai que c'était considéré comme l'une de la rivière la plus polluée d'Europe et que, je veux dire, il a fallu une quinzaine d'années, finalement, pour la rendre non toxique, mais ce n'est pas redevenu une rivière vivante avec une faune et une flore de rivière naturelle. Et pour ce qui concerne les eaux de surface, c'est aussi tous ces étangs miniers qu'il y a maintenant installés dans les fonds de carrière en particulier et dans lesquels on dit qu'effectivement, il y a aussi... C'est assez propice au développement de biologique d'un écosystème particulier qui est absolument original par rapport à la faune et la flore qui existaient auparavant, mais finalement qui prouverait que ces eaux-là, en tout cas en Lorraine, en surface, ne sont pas dangereuses.
Voilà. Pour respecter le... donc il répondra à la pause. Voilà, et juste pour bien respecter le timing, une dernière question, donc monsieur qui attend.
Oui, Pierre-Christian Guillolard, juste puisqu'on est dans les scénarios de science-fiction au 24e siècle, Francis Meillez, est-ce que vous avez tenu compte pour l'avenir du paysage du bassin minier de la hausse éventuelle prévue du niveau de la mer qui transformerait donc le paysage minier en Pays-Bas?
Alors, non, évidemment, cette dimension-là n'est pas rentrée dans les modèles pour l'instant. Le géologue que je suis attirera d'abord l'attention sur le fait qu'on n'est pas sur les mêmes pas de temps. À l'échelle de 2 à 3 siècles, qui est l'échelle sur laquelle j'essaye d'attirer l'attention pour le bassin minier, une hausse prévue, si elle se produit avec les scénarios catastrophes évoqués, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces scénarios, ça conduira simplement à menacer réellement ce qu'on appelle la plaine maritime. Et sur mon image de tout à l'heure, tout ce qui était dans des bleus comparables à la mer, là, bon, oui, là, il y a de réelles menaces, c'est-à-dire le Dunkerquois et l'arrière-pays Dunkerquois, la Flandre maritime. La conséquence différée en ce qui concerne le bassin minier, tout au moins les parties basses, pleines de la Lys, pleines de la Scarpe, c'est que la remontée du niveau marin va entraîner, avec un certain décalage, la remontée des niveaux d'eau souterraine et le blocage de l'évacuation des rivières en mer, et donc va entraîner un renforcement de la sédimentation le long des cours d'eau qui vont s'envaser, et ce qui va contribuer aussi à augmenter les risques d'inondabilité. J'ai dit les risques, hein, j'ai pas dit les inondations. Les risques d'inondabilité. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération peut-être. Pour l'instant, il y a rien de dramatique, mais bon, je pense qu'il faut y réfléchir. En tout cas, on est dans une situation où on peut vraiment étudier sérieusement et scientifiquement ces problèmes-là.